Mes amis, le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie et remportent une victoire décisive pour la suite de la guerre. C'est le D-Day. Et je vous encourage vivement à revoir le film majestueux de Steven Spielberg, il me semble, Saving Private Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan, avec Tom Hanks et le légendaire Matt Damon. L'histoire du débarquement, une scène mémorable de 20, 25, 30 minutes. Et puis cette patrouille qui va devoir aller rechercher un frère, le soldat Ryan. Si vous n'avez pas vu de film, je vous encourage à le voir pour revivre cet événement essentiel de notre histoire. Un an après, vous savez, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule et met ainsi un terme définitif à la guerre. C'est le VE Day, qui veut dire Victory in Europe Day. Le débarquement du 6 juin, le D-Day, a garanti la victoire aux Alliés, mais les soldats ont quand même dû se battre. Et la guerre, la Seconde Guerre mondiale, a duré pendant près d'un an. Je ne sais pas si vous connaissez Oscar Kuhlmann. Qui connaît Oscar Kuhlmann? Un théologien français du XXe siècle, qui est né à Strasbourg. Excusez-moi, je ne fais pas très bien l'accent strasbourgeois. Oscar Kuhlmann compare la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en 2012, à la période entre le 6 juin 44 et le 8 mai 45, à la période entre le D-Day et le VE Day. Et vous voyez, c'est sur cette réalité que j'aimerais attirer votre attention ce soir, à la lumière de la deuxième partie de l'Épître, à la lumière de la deuxième partie du 15e chapitre de l'Épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 34. Vous vous rappelez de ce que nous avons vu ce matin ? 1 Corinthiens chapitre 15, des versets 1 à 19. La résurrection de Jésus, sa mort et sa résurrection, l'Évangile est un fondement qui a des retentissements. C'est un fondement biblique, parce que Jésus est mort et ressuscité selon les Écritures, vous vous rappelez ? C'est un fondement historique parce que Jésus est ressuscité le troisième jour. C'est un fondement biblique historique qui a des retentissements sur votre foi, qui est validé, fondé, et qui a des retentissements sur nos péchés, d'accord, qui sont pardonnés. Et c'est sur cette base historique de la résurrection de Jésus que l'apôtre Paul va s'appuyer maintenant, à partir du verset 20, pour montrer, prouver, démontrer que les morts ressuscite. Si Jésus est ressuscité, cela prouve qu'un mort peut revenir à la vie et que par conséquent, les morts ressuscitent. Et si vous vous rappelez du contexte un peu dans lequel évoluent les Corinthiens, certaines personnes réfutent l'existence de la résurrection corporelle. Ce à quoi l'apôtre Paul répond donc dans le passage que nous allons lire, les morts ressuscitent parce que Christ est ressuscité. Et dans la même partie, il va dire ceci, et c'est la phrase que j'aimerais que nous retenions ce soir. La victoire sur la mort est assurée grâce à la résurrection de Jésus, mais le combat continue. La victoire est assurée, la victoire sur la mort est assurée grâce à la résurrection de Jésus, grâce à sa propre victoire sur la mort, mais le combat continue. Ça va, c'est pas trop dur ? J'aimerais voir ensemble deux choses ce soir à la lumière de ces versets. Premièrement, des versets 20 à 28, une victoire assurée. Et deuxièmement, des versets 29 à 34, deux combats à mener. Premièrement donc, je vous propose de lire les versets 20 à 28 d'1 Corinthiens chapitre 15. On y est ? Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Premièrement, des versets 20 à 28, une victoire assurée. Pourquoi ? Parce que des versets 20 à 23, Christ est les premiers fruits. En fait, les deux premiers mots de cette section sont peut-être les plus importants. Si vous avez la version Colombe de la Bible, ma version préférée, mais maintenant, si vous avez une autre version, la Summer, que je n'aime pas trop, j'aime bien les notes, je vous ai dit. Si vous avez la seconde 21, que je n'aime pas du tout, vous aurez « mais en réalité ». Ces mots sont vraiment fondamentaux. Mais Christ, Christ est ressuscité. La résurrection de Christ, vous vous rappelez, est un fondement historique. Un événement historique que vous aurez pu noter sur votre agenda si vous avez vécu à l'époque. Une réalité, un fondement historique qui unit Christ aux croyants de manière inséparable. Un peu comme les oiseaux du même nom, vous vous rappelez ? Au moins, vous aurez appris une chose ce week-end. Des inséparables. C'est très mignon, les inséparables. Deux oiseaux, inséparables par définition. C'est une réalité, la résurrection, qui unit le croyant à Christ et qui détermine non seulement leur vie présente. Dans une autre épître, Paul dira que les chrétiens croyants sont ressuscités avec Christ. Donc c'est une réalité qui détermine non seulement leur vie présente, mais aussi leur vie éternelle à venir. Leur victoire sur la mort est assurée grâce à la résurrection de Jésus. C'est un thème vraiment important dans la Bible, ce qu'on appelle l'union à Christ. Le lien qui unit Jésus aux croyants, le lien qui vous unit à Jésus, si vous avez placé votre confiance en lui, est un peu le même que celui qui unit une femme enceinte à son enfant. Et je ne dis pas ça parce que ma femme est enceinte. Mais quand même, ça m'a aidé à penser à cette illustration, qui n'est pas une illustration parfaite, c'est une analogie qui a ses limites. Mais le lien qui vous unit à Jésus, si vous êtes croyant, chrétien, disciple de Jésus, est le même que celui qui unit une femme enceinte à son enfant. Par exemple, si la femme enceinte mange une tarte aux fraises, l'enfant dans son ventre mange une tarte aux fraises, merci. Si la femme enceinte prend l'avion, l'enfant dans son ventre prend l'avion, en mangeant une tarte aux fraises peut-être. Si la femme enceinte va au GBU, l'enfant dans son ventre va au GBU. Vous voyez, le lien qui vous unit à Jésus est un peu le même que celui qui unit une femme enceinte à son enfant. Si vous avez placé votre confiance en Christ, avez-vous déjà pensé à cela ? Vous êtes unis à lui de manière inséparable. Rien ne pourra vous séparer de son amour, pas même la mort. Ce qui est arrivé à Jésus sur la croix, sa mort et sa résurrection, vous est arrivé et vous arrivera. Il unit son sort au vôtre. Vous êtes mort avec Jésus sur un plan non pas mystique, mais juridique. Jésus est en quelque sorte votre représentant, votre avocat. Et vous ressusciterez de la même manière qu'il est ressuscité. Il est les prémices, les premiers fruits. Regardez encore les versets 21 et 23. Christ est les premiers fruits, les prémices de la résurrection. Il est le gage, comment dire, d'une abondante moisson, d'une récolte abondante. La garantie de notre propre victoire sur la mort. Vous comprenez ? La garantie de notre propre résurrection. La résurrection de Jésus est un peu comme les premières cerises disponibles au supermarché peut-être au mois de mai d'ailleurs. Vous voyez, quand vous allez faire vos courses à Simply Market, à Carrefour Market, à Champion, non, ça n'existe plus, à Intermarché, à Leclerc, à Auchan, si vous allez au rayon fruits et légumes, il se peut que vous croisiez deux ou trois plateaux de cerises en début de saison. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ces deux ou trois plateaux de cerises à 50 euros le kilo ne sont que les prémices les premiers fruits, mais d'une abondante moisson, d'une abondante récolte. Quelques jours, quelques semaines plus tard, les plateaux de cerises vont abonder au supermarché. Pour une bouchée de pain, peut-être 5, 6 euros le kilo, ou moins. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire ? Les premiers fruits annoncent une abondante récolte, une abondante moisson à venir. Imaginez, vous êtes sur la plage de Palos de la Frontera. Qui a déjà été à Palos de la Frontera ? Personne, moi non plus. Dans la province espagnole de Huelva, en Andalousie, le 3 août 1492. Et là, avec stupéfaction, vous voyez trois navires qui larguent les amarres pour partir en mer. Et là, vous rigolez intérieurement et vous vous dites « La terre est plate !» Mais la terre est plate, voyons. Ils vont tomber. J'espère qu'ils n'ont pas oublié leur parachute. Mais la terre est plate. Forcément, à un moment donné, ils vont tomber dans le vide. J'espère qu'ils n'ont pas oublié leur parachute. Vous dites-vous, avec une certaine ironie. Et vous voyez la flottille qui disparaît à l'horizon. Nous sommes le 3 août 1492. 7 mois plus tard, le 13 mars 1493, à votre étonnement, vous voyez les mêmes navires revenir sur la même plage de Palos. Christophe Colomb a découvert un nouvel horizon, un nouveau monde, l'Amérique. Salut Scott. Salut Colin. L'Amérique et ses produits exotiques qui vont se répandre dans le monde. Le Coca-Cola, le Pepsi, le Big Mac, le milkshake au chocolat, Hollywood, Madonna, Michael Jackson, Michael Jordan, le basket, le football américain, le rock and roll. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? De la même manière que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, un nouvel horizon dans le monde présent, et bien de la même manière, Christ a ouvert une vie nouvelle dans le monde à venir. En tant que premier fruit, en tant que prémisse de la résurrection, en tant que premier homme à être ressuscité pour ne plus mourir, il annonce, il garantit une abondante moisson à venir. La victoire sur la mort, votre victoire sur la mort, si vous avez placé votre confiance en lui. La résurrection pour tous ceux qui lui appartiennent. Et si vous vous posez des questions, si vous êtes comme la personne avec laquelle j'ai discuté hier soir, qui n'est vraiment pas sûre, qui se pose encore des questions, cette personne me posait « Mais comment un homme peut-il ressusciter ? C'est invraisemblable ! J'ai du mal à y croire. » Si vous vous posez des questions sur la mort et la résurrection de Jésus, mes amis, sachez que la mort éternelle n'est pas nécessairement la fin de votre voyage sur terre. La mort éternelle n'est pas nécessairement la fin de votre voyage sur terre. Vous avez la possibilité d'être au bénéfice de la victoire, de la résurrection de Jésus, simplement en vous repentant de vos péchés et en plaçant votre confiance en Christ. Tout ça par pure grâce, par pure grâce. La victoire sur la mort est donc assurée. Pourquoi ? J'espère que vous l'avez compris, hein ? Parce que Christ est ressuscité, parce qu'il est les prémices, les premiers fruits de la résurrection. Mais la victoire sur la mort est assurée pour une deuxième raison. Regardez les versets 24 à 28. Là, j'espère que vous avez sorti le Blutschow, que vous vous êtes retroussé les manches et que vous avez mobilisé toutes vos neurones encore disponibles à cette heure tardive de la journée, parce que ce sont peut-être les versets les plus difficiles de toute l'Épître aux Corinthiens. Versets 24 à 28. On les a déjà lus, mais on les relit. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Dans ces versets, je pense que Paul est en train de décrire, comment dire, l'ordre chronologique des différentes étapes de la fin des temps. Pour votre information personnelle, nous sommes dans la fin des temps à l'heure où nous parlons, parce que la fin des temps a été inaugurée par la mort et la résurrection de Jésus et sera terminée par son retour. Je me réfère notamment à Hébreux chapitre 1, verset 2. Et quelle est la première étape de la fin des temps? Regardez le verset 23 encore avec moi. Première étape, la résurrection de Christ en tant que prémisse ou premier fruit de la résurrection des croyants. Vous êtes d'accord? C'est la première étape. D'accord? Quelle est la deuxième étape maintenant? Regardez le verset 23 encore. La résurrection de ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, synonyme dans son retour. Donc, première étape, Christ est ressuscité, d'accord? Deuxième étape, les croyants ressuscitent. Tout le monde suit? Ok. Troisième étape, la fin, ou plutôt le but, en grec, le telos, c'est-à-dire l'accomplissement ultime des promesses de Dieu quand Jésus fera trois choses. Suivez-moi, hein, ça va, je ne vois pas encore de fumée qui sort de vos oreilles, ça veut dire que le cerveau ne chauffe pas trop. Première chose que Jésus va faire, il va abolir toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Okay, c'est-à-dire toute personne, tout système visible ou invisible, politique, philosophique, religieux, qui s'oppose à Dieu. Deuxième chose que Jésus va faire, au verset 24, remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ça commence à chauffer. Hein. Je pense que dans ce verset, Paul est en train de faire allusion, comment dire, à l'aboutissement de l'œuvre rédemptrice de Jésus et compare Jésus, comment dire, à un général romain qui, après avoir gagné une guerre, revient à Rome, parade dans les rues avec l'armée vaincue derrière lui, s'agenouille devant l'empereur. En lui présentant le royaume conquis, il lui dit, deux points, ouvrez les guillemets, les voilà, tes ennemis. Ils sont maintenant sous ton autorité. Je les livre entre tes mains. Ma mission est accomplie. Ok ? Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les écrire pour pouvoir les retenir et les poser à la fin. Troisième et dernière chose que Jésus fera, regardez le verset 26. Il détruira, qu'on pourrait plutôt traduire, il rendra inefficace le dernier ennemi, c'est-à-dire la mort. La mort. Et en attendant cette destruction finale, regardez la suite hein, du passage, il faut qu'il règne, Jésus, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Une citation du psaume 8, verset 7, et du psaume 110, verset 1. Il faut qu'il règne, Jésus, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Je crois que ce que Paul est en train de dire dans ce verset, c'est précisément ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui, maintenant, jeudi 26 avril 2012, 21h03. C'est précisément ce que Jésus est en train de faire. Au travers de la prédication de la parole de Dieu, au travers de l'annonce de l'évangile dans le monde, Jésus est à l'œuvre pour soumettre à l'autorité, au règne de Dieu, tous ceux qui s'opposent à lui. Et c'est ce qui vous est arrivé si vous êtes chrétien. C'est ce qui vous est arrivé un jour ou l'autre. Personnellement, ça m'est arrivé en avril 2000. Ça vous est peut-être arrivé avant ou après. Dans son livre « Les évangéliques à la conquête du monde », est-ce que vous connaissez ce livre ?« Les évangéliques à la conquête du monde » de Patrick de Plunkett. Est-ce que vous savez combien de Chinois, apparemment, hein, se convertissent tous les jours? En Chine, bien entendu. Combien de Chinois se convertissent tous les jours? Pour votre information, le nombre de chrétiens en Chine est estimé entre 50 et 60 millions, au bas mot. Combien de Chinois se convertissent par jour, apparemment, en moyenne? Vous savez? Combien? J'ai entendu 5 000, c'est ça? 30 000? 10 000. 10 000 Chinois se convertissent au christianisme par jour, apparemment. J'ai envoyé un email à Daniel Lichty. Je ne sais pas si vous connaissez Daniel Lichty, c'est le vice-président du CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France. Et je lui ai posé la même question. Selon le CNEF, combien de Français se convertissent en France chaque année? Et vous savez quoi? Il m'a répondu. Je vous lis sa réponse, ça vous intéresse? Compte tenu de l'augmentation du nombre d'églises et de la taille moyenne de celles-ci, j'estime le nombre d'évangéliques supplémentaires en France métropolitaine par an, compris entre, par an, hein, 8 000 et 14 000. 8 000 et 14 000, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais est-ce que vous vous rendez compte que tous les jours que nous vivons, des hommes et des femmes dans le monde entier se soumettent au règne et à l'autorité de Dieu grâce à la prédication de l'évangile dans le monde, en Chine, mais aussi en France. Et si vous êtes chrétien, vous êtes le produit de cette annonce de l'évangile. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas de tous ceux qui entendent l'évangile. D'accord ? Il suffit de faire des sondages, d'aller distribuer des tracts sur les facultés pour constater que toutes les personnes auxquelles nous parlons de Jésus ne se convertissent pas, ne deviennent pas chrétiennes. Force de constater en lisant les journaux, en écoutant France Info, en regardant BFM TV ou en écoutant RMC Info, que nous vivons dans un monde hostile, non ? Vous ne trouvez pas ? Dans un corps soumis aux effets du temps, au froid à Lyon, en février, il a fait un froid de canard. Et c'est précisément la semaine que nous avions choisie pour organiser notre semaine de questionnaires, question suivante. C'est pas grave. Nous vivons dans un monde toujours soumis aux effets du froid, du chaud, de la chaleur, de la migraine. Vous souffrez peut-être de migraine, de la dépression. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur cinq est touchée par la dépression dans sa vie. J'en ai fait partie. Peut-être en avez-vous fait partie. Peut-être en ferez-vous partie. Nous vivons dans un monde soumis aux effets des virus, du sida par exemple, des bactéries, du cancer et de la mort. Non ? Écoutez ce que Henri Blocher explique sur la nature du règne actuel de Jésus. Je vous avais prévenu, dans ma vie il y a Dieu, il y a Henri Blocher et il y a Don Carson. Écoutez comment Henri Blocher explique la nature du règne actuel de Jésus. Je le cite dans sa doctrine du Christ. Dieu n'anéantit pas instantanément l'opposition de ses adversaires. Son règne a plutôt le caractère d'une conquête militante et progressive. Ce n'est pas que les ennemis échappent à sa souveraineté. La sagesse de ce gouvernement laisse un sursis au vieux monde, avec tout ce que cela implique, jusqu'au jour où le nombre des élus sera complet. Apocalypse, chapitre 6, verset 11. Et ce, en canalisant les œuvres des méchants au profit du plan de Dieu. Le Père a confié l'exercice de ce règne au Fils dans l'intérêt du salut des hommes que Jésus a racheté par son sang. Fin de citation. Mais en fait, comme le pensait Oscar Kuhlmann, vous vous rappelez ? Oscar Kuhlmann ? Nous vivons bel et bien dans une période intermédiaire, dans une période de l'histoire entre le D-Day, le jour du débarquement, et le VE Day, entre la victoire décisive que Jésus a remportée sur la croix, en ressuscitant des morts, et entre le jour où il va revenir pour détruire la mort définitivement. Est-ce que vous comprenez ? Et grâce à ma chère collègue de GBU Méditerranée, il y a un schéma qui essaye d'expliquer la nature du règne de Jésus. Christ détruira le dernier ennemi, vous voyez. Le premier cercle fait référence au temps présent, maintenant. Le second cercle, celui de droite, fait référence au temps à venir. Et nous vivons entre les deux, entre la première venue de Jésus, le D-Day, et la seconde venue de Jésus, le VE Day, Victory in Europe Day. Est-ce que c'est clair ? Nous vivons dans cette période intermédiaire. Alors oui, 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 la victoire est assurée. Oui, 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 nous allons ressusciter, vous allez ressusciter, parce que Christ est ressuscité, parce qu'il est les premiers fruits de la résurrection, parce qu'il détruira le dernier ennemi qu'est la mort. Mais nous ne sommes pas encore ressuscités. La mort rôde toujours dans le monde, n'est-ce pas ? Le combat continue. Oui, la victoire est assurée. On va gagner, parce que Christ a gagné. La victoire est assurée, mais le combat continue. Suite au débarquement des Alliés le 6 juin 1944, savez-vous que la France, notre cher et beau pays, a connu une grande période de joie ? Forcément, parce que les Alliés étaient débarqués. Mais savez-vous que notre cher pays, que nos grands-parents et que nos arrière-grands-parents ont vécu de grands moments de souffrance ? En fait, suite au débarquement, l'Allemagne nazie se savait vaincue. Mais en se retirant du pays, dans un élan de dépit et de colère et de rage, qu'est-ce que ces armées ont fait ? Ces armées ont détruit des villages entiers sur son passage. Vous comprenez ? L'Allemagne était vaincue. Mais en se retirant, en retirant ses troupes de territoire, Elle a détruit des villages entiers sur son passage. Il paraît même que les Français, à cette époque, entre le D-Day et le VE-Day, il paraît même que des Français avaient mis des drapeaux français sous leurs matelas et leurs oreillers pour les cacher. Vous comprenez pourquoi ? Parce que l'heure n'était pas encore à la fête. Oui, la victoire était assurée. L'Allemagne nazie avait été défaite, oui. Mais l'heure n'était pas encore à la fête. Ce n'était pas encore le temps d'agiter les drapeaux. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en 2012. La bataille décisive a été remportée. La victoire est assurée. Jésus est ressuscité, c'est vrai. Mais la guerre n'est pas encore terminée. Le jour où Jésus reviendra pour détruire le dernier ennemi n'est pas encore arrivé, non ? Sinon, il faut me le dire. Hein. La victoire est assurée, c'est vrai. Mais le combat continue. L'ennemi de Dieu et des hommes, le diable, se sait vaincu. Satan est vaincu. Sur la croix, Jésus l'a dépouillé. Il lui a enlevé toute capacité d'accusation. Parce que Jésus a été rendu coupable à notre place. Satan se sait vaincu. Mais dans le cadre de la souveraineté de Dieu, il reste toujours actif. Et je vous renvoie au prologue du livre de Job pour comprendre l'influence du diable. Dans le cadre de la souveraineté globale de Dieu qui permet mystérieusement au mal d'agir. Alors oui, l'heure est à la joie. Et si c'est ce que vous pensez dans votre cœur, je suis d'accord avec vous. L'heure est à la joie, mais pas encore à la teuf. Pas encore à la teuf. Nos drapeaux doivent être encore sous nos matelas, sous nos oreillers. Le jour de la victoire finale, le VE Day, Victory in Europe Day, n'est pas encore arrivé. Mais vous allez me dire, comment vivre en attendant ce jour ? Comment vivre entre le D-Day et le VE Day ? Eh bien, je pense que c'est à ces questions que l'apôtre Paul répond de manière très pratique, très pastorale, dans la deuxième partie de ce chapitre, des versets 29 à 34, que je vous propose de lire. Versets 29 à 34. « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi, le sujet en Christ Jésus notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous comme de justes et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Premièrement, une victoire assurée, parce que Christ est les premiers fruits de la résurrection, les prémices, parce qu'il détruira le dernier ennemi qui est la mort, une victoire assurée. Mais il y a deux combats à mener. Deux combats à mener. Si vous avez lu le verset 29, vous êtes peut-être en train de vous dire que c'est le verset le plus difficile de tout le Nouveau Testament, et vous avez raison. Je ne sais pas combien il existe d'interprétations de ce verset. Dans le cadre de mes études de théologie, mon professeur de dogmatique, Alain Isus, nous avait expliqué qu'il existait plusieurs dizaines d'interprétations en ce qui concerne ce verset. Comment le comprendre ? Alors c'est le moment de poser vos questions, enfin, après. Mais je vous suggère cette interprétation. D'accord ? Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Écoutez bien, le baptême étant l'occasion d'une confession publique de sa foi, vous êtes d'accord avec moi ? Si vous vous êtes fait baptiser dans une église, ce fut l'occasion pour vous d'une confession publique de votre foi. Vous avez témoigné publiquement de votre foi en Jésus. Le baptême étant une occasion publique de sa foi. Et le baptême étant aussi l'occasion... pour le croyant, d'être exposé à la persécution. Nécessairement, si vous témoignez publiquement de votre foi, vous vous exposez quelque part à la persécution, surtout à l'époque, et peut-être à la mort. Compte tenu de cela, Paul serait peut-être en train de poser cette question aux Corinthiens. Écoutez les petits loups, je vous aime bien, mais pourquoi courir un tel risque ? Pourquoi risquer de se faire baptiser s'il n'y a pas de résurrection ? Pourquoi mettre sa vie en danger ? Pourquoi s'exposer à la persécution et peut-être à la mort pour sa foi en Christ ? Et je pense que dans le cadre de cette interprétation, la Bible du Semeur, pour une fois, traduit bien ce passage. Si vous avez la Bible du Semeur, il me semble que la traduction est au péril de sa vie. Est-ce que quelqu'un pourrait me le confirmer? Rémi, tu as la Bible du Semeur sous les yeux? Si tu dors pas. Non, non, verset 29. Merci Youngmin, merci. Au péril de sa vie. Mais je pense que c'est une traduction qui va dans le sens de cette interprétation. Vous comprenez, le baptême étant vraiment l'occasion pour les croyants de témoigner publiquement de leur foi, peut-être d'être persécutés, peut-être de mourir. Mais à quoi bon? Pourquoi courir un tel risque s'il n'y a pas de résurrection des morts? Pourquoi Paul a-t-il combattu les bêtes au sens figuré, hein, à Éphèse? C'est ce qu'il dit. Pourquoi a-t-il pris le risque de combattre l'Éphèse? Pourquoi a-t-il pris le risque d'annoncer l'évangile au péril de sa vie? Il s'est fait lapider, il a failli mourir. Pourquoi? Pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'il avait l'assurance de ressusciter. Parce qu'il avait l'assurance de ressusciter le jour où Jésus reviendrait pour détruire la mort. Est-ce que vous connaissez John Rogers? Quelqu'un connaît John Rogers dans cette salle? Un puritain britannique du XVIe siècle, le siècle de la réforme protestante. Et selon le livre des martyrs, or si vous ne savez pas quoi lire cet été, je vous conseille le livre de The Book of Martyrs, en anglais, de John Fox, F-O-X-E. Et voilà ce que John Fox, qui relate la vie de certains martyrs, dont beaucoup de puritains britanniques, voilà ce qu'il dit à propos de John Rogers. Il fut apparemment brûlé pour son attachement aux principes fondamentaux de la réforme protestante. Vous avez bien entendu, il fut brûlé. Et le jour de son exécution, en marchant vers le bûcher, vous savez ce qu'il fait? Il chante des psaumes. Et sur le bord de la route, il voit sa femme qui est enceinte d'un enfant qu'il ne verra jamais. L'ambassadeur de France assiste à la scène et dira que cet homme a marché vers sa mort comme il a marché vers son mariage. John Fox. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'il avait l'assurance de la résurrection. Il avait l'assurance de la résurrection. Si un jour vous êtes persécuté pour votre foi en Christ, mes amis, qui sait? Peut-être pas aujourd'hui, dans quelques années, peut-être vos enfants dans quelques siècles. Comment réagir? Comment réagir? Est-ce que vous connaissez Dietrich Bonhoeffer? Peut-être un peu plus connu. Un pasteur, un théologien, un auteur allemand, notamment auteur du Prix de la Grâce, il me semble, qui juste avant de mourir en martyr, tué par les nazis, le 8 avril 1945 a dit ceci, « C'est la fin. C'est la fin. Mais pour moi, c'est le début de la vie. » Est-ce que vous direz ça le jour de... où vous sentirez la mort approcher? Est-ce que vous allez vous dire ça sur votre lit de mort? C'est la fin. Oui, oui. Mais c'est le début de la vie. Alors comment vivre, mes amis? Comment vivre en attendant le jour où Jésus reviendra pour détruire le dernier ennemi, pour détruire la mort? Et en sachant que nous allons ressusciter, je vous suggère ceci, en combattant le combat de l'Évangile, en menant le combat de l'Évangile. Est-ce que vous êtes prêts à prendre des risques pour l'Évangile dans votre GBU local à Amiens, à Paris, à Orléans, à Tours, à Nice, à Strasbourg, à Aix-en-Provence, à l'école centrale, à Paris, à Lyon et ailleurs, à Rennes, dans le nord de la France? Est-ce que vous êtes prêts à prendre des risques pour l'Évangile dont le but est de faire connaître la Bible et par elle l'Évangile? Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort? Est-ce que je suis prêt à me mouiller pour Dieu? Est-ce que je suis prêt à aller mettre des affiches là où mes amis communistes les mettent? Et là où je sais que la durée de vie d'une affiche est de 5 secondes? Est-ce que je suis prêt à aller distribuer des tracts, à organiser une semaine d'évangélisation? Une semaine de questionnaires, questions suivantes, un dialogue veritas. Est-ce que je suis prêt à m'exposer aux moqueries, aux insultes, à l'hostilité peut-être, aux souffrances peut-être, à la mort pour l'Évangile? Mais qu'est-ce qu'on a à perdre exactement? Dites-le-moi, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qui peut nous arriver? J'ai entendu dire qu'il y a quelques années, alors qu'un GBU faisait un stand à Nanterre, vous savez, en bas de la sortie du RER, pour ceux qui connaissent, certaines personnes avaient uriné sur le stand du GBU. Ça vous est déjà arrivé ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Mais qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qui peut nous arriver ? Est-ce que vous comprenez ce que Paul est en train de dire là ? Les implications de la résurrection sont fondamentales. Nous pouvons affronter la réalité de la souffrance et de la mort avec assurance. En sachant que la victoire est assurée, parce que Christ est ressuscité, en sachant que la vie sur cette terre n'est pas une fin en soi, mais que nous allons ressusciter. C'est pas beau ? Deux combats à mener. Premier combat, l'évangile. Est-ce que vous êtes prêt à le mener, ce combat ? Dès lundi ? Deuxième combat, la sainteté. Des versets 32 à 34. Plus précisément, de la deuxième partie du verset 32 au verset 34. Pourquoi la sainteté ? Vous allez me dire, c'est une bonne question. Remarquez, c'est moi qui l'ai posé la question. Mais parce que la résurrection des morts devrait déterminer notre manière de vivre. Regardez le verset 32, la deuxième partie du verset 32. « Si les morts ne ressuscitent pas, dit Paul, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » En fait, dans ce verset, cité en Ésaïe 22, 13, Paul compare la situation des chrétiens de Corinthe à celle des habitants de Jérusalem, dévastée par les Assyriens au 8e siècle avant Jésus. Les habitants de Jérusalem qui, pendant qu'ils sont en train d'être dévastés, font la fête, pêchent contre Dieu au lieu de se tourner vers lui, mangent, boivent et s'en donnent à cœur joie. Et c'est comme si Paul était en train de dire, mais les Corinthiens, les petits loups, mais ce n'est pas le moment de faire la fête. L'heure est à la joie, c'est vrai, mais ce n'est pas encore l'heure de faire la fête. Ce n'est pas le moment de se laisser influencer, corrompre par de mauvaises compagnies. Et c'est ce que dit Paul, regardez au verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. L'année dernière, nous avons organisé à Lyon une semaine Nouveau Départ. C'est une semaine d'évangélisation sur les campus, consacrée à la formation le matin, à la distribution de tracts, aux questionnaires à midi, et puis à des soirées le soir. J'avais invité un ancien Lyonnais à participer à cette semaine. J'ai vraiment été très encouragé par sa présence, parce que ça fait longtemps qu'il n'était pas venu au GBU. Je lui avais demandé d'animer une étude biblique le matin. À la fin de l'étude, il nous a fait cette confession. Il est étudiant en médecine. Il travaille. C'était un élève brillant qui n'a, je pense, jamais redoublé. Et qui nous a confié combien, ça m'a tellement surpris, combien il avait été influencé par ses amis non chrétiens qui avaient l'habitude de faire des blagues douteuses, d'employer un langage vulgaire. Il nous a fait cette confession, mais je me suis rendu compte que leur influence avait déteint sur moi. Et vous savez comment il s'en est rendu compte ? Parce que ses amis lui ont dit, ah « Tiens, tu parles comme nous maintenant. Tu ris à nos blagues. Même mieux, c'est toi qui fais les blagues maintenant, et c'est nous qui rions. » Incroyable. Est-ce que c'est votre cas ? Ce fut mon cas. Quelles sont les personnes qui, dans votre entourage, ont une mauvaise influence sur vous ? Que faites-vous pour continuer à passer du temps avec eux, à les aimer, à prier pour eux, mais sans que leur manière de vivre déteigne sur vous ? Vous comprenez ? C'est le moment de se ressaisir, dit Paul aux Corinthiens, qui sont en train de se relâcher, qui pensent que la résurrection est déjà arrivée quelque part. Parce que certains croient, en fait, que la résurrection est déjà arrivée et qui font la fête. Ouhou, c'est la teuf, hein ? On a gagné, et un, et deux, et 3-0. Oui, oui, on a gagné, Paul dit. Oui, la victoire est assurée, mais le combat continue. La guerre continue. Ce n'est pas le moment de se relâcher. C'est le moment de se ressaisir, de ne plus persister dans le péché. C'est ce que dit Paul au verset 34. « Ressaisissez-vous comme des justes et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. » Je le dis à votre honte. Quels sont les péchés dans lesquels nous persistons ? Vous êtes les seuls à pouvoir répondre à cette question dans votre fort intérieur. Dieu le sait aussi. Que faites-vous pour ne pas ne plus persister dans ces péchés que vous connaissez parfaitement ? Qu'est-ce que je fais pour ne plus persister dans les péchés que je connais parfaitement? Vous connaissez John Piper? Un peu plus moderne. Un pasteur et un auteur américain qui sera d'ailleurs à l'Institut biblique de Genève du 10 au 12 mai. Si vous pouvez y aller, je vous encourage à vous inscrire. Remarquez, c'est trop tard puisqu'ils ont clos les inscriptions. Je crois qu'il y a 700 personnes inscrites. Je vous encourage vraiment à aller sur le site de John Piper, www.desiringgod.org. Désolé, mon accent américain est pourri. Je parle australien. Et je vous encourage vraiment à aller sur ce site ou alors à taper dans Google John Piper Anthem, A-N-T-H-E-M. Ok. John Piper a en fait proposé une stratégie pour lutter notamment contre le péché et contre l'inconduite sexuelle. Il a développé un acronyme, Anthem. J'ai eu l'occasion d'en parler à certains d'entre vous. Grâce à un GBUcien de Saint-Étienne, on a traduit ça, entrée. Et chaque lettre, en fait, représente un impératif. Si ça vous intéresse, posez la question à la fin. J'ai plus de détails dans mon ordinateur. Mais si vous voulez découvrir cette stratégie pour lutter contre le péché, concrètement, je vous encourage à faire cela. Temps de conclure. J'espère que vous avez compris ce soir que la victoire est assurée. Parce que Christ est ressuscité. Parce qu'il est les premiers fruits. Et parce qu'il reviendra pour détruire le dernier ennemi. Mais j'espère que vous avez aussi compris que le combat continue. Qu'il y a deux combats à mener. L'évangile et la sainteté. Précisément parce que nous allons ressusciter. En attendant ce jour, le jour où Dieu, dans la personne de Jésus, va revenir pour mettre fin, pour détruire le dernier ennemi, qu'est la mort. Est-ce que vous êtes prêts à mener ces deux combats? Est-ce que vous êtes prêts? Dès ce soir, peut-être? Deux combats que nous ne pouvons pas mener, en tout cas, tout seul, mais que nous ne pouvons mener qu'en puisant nos forces en Dieu, sans lequel nous ne pouvons rien faire. On prie. Je vous propose, comme à l'accoutumée, de réfléchir dans le secret de vos cœurs, dans votre fort intérieur, aux vérités éternelles, consignées par Dieu dans sa parole et plus particulièrement dans ses versets. La parole de Dieu n'est pas une parole morte, c'est une parole vivante, efficace, qui pénètre au plus profond de notre cœur, au travers de laquelle nous parle l'Esprit de Dieu. La résurrection de Jésus est un fondement biblique, historique, qui a des retentissements sur notre foi, validée, fondée, sur nos péchés pardonnés. La victoire est assurée. Christ est les premiers fruits de la résurrection. Il reviendra pour détruire le dernier ennemi qu'est la mort. Oui, la victoire est assurée. Mais le combat continue, il y a deux combats à mener. L'évangile, dans nos GBU, dans notre vie personnelle. La sainteté. Père, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui a parlé dans l'histoire, qui a fait des promesses et qui a tenu ses promesses. Et merci parce que l'accomplissement ultime de ces promesses n'est autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ, mort à notre place pour nos péchés, ressuscité pour notre espérance vivante. Il est les premiers fruits, les prémices de la résurrection. Il reviendra pour détruire le dernier ennemi qu'est la mort. En attendant, un de nous, par l'Esprit que tu as déversé en nous en menant le combat de l'Évangile et de la sainteté. Parce que Jésus est ressuscité et parce que nous ressusciterons avec lui. C'est en son nom et pour sa gloire que nous prions. Amen. Merci de votre attention. Comme dirait mon ami Andrew Page, des questions, des remarques, des dons financiers. Sinon, il est toujours difficile de poser la première question. Je propose donc que quelqu'un pose la deuxième question. Ce sera peut-être plus facile. Ça a marché hier soir à Lyon. On a fait un une soirée spéciale et quelqu'un a posé la deuxième question. Donc, je m'en souviens plus. Il n'y a peut-être pas de questions. Est-ce que c'était clair? Ça va? Passage difficile, hein, mais merci de vous être accroché. Laurent, tu poses la deuxième question alors. Hein. Ouais, alors j'ai besoin de mon ordinateur. J'arrive. J'aurais dû préparer ça à l'avance, je sais. Quand vous allez en anglais, je vais en français. C'est vraiment ça. Très utile, alors. Alors. Alors, je sais que William connaît ça par cœur, n'est-ce pas, William? Puisqu'on en a parlé au week-end de sortie et au week-end de rentrée. Tu essaies de te rappeler? On l'avait traduit, hein? Attends, je ne l'avais pas traduit à l'époque. Je ne sais pas si je l'ai traduit. Ouais, on arrive. Alors, je réfléchis. Ah, t'étais là aussi, Colin, ouais. J'arrive, les amis, hein? Enfin, mon ordinateur plutôt. OpenOffice 3. C'est très bien OpenOffice. Alors si ça vous intéresse, je l'ai là. Si vous voulez prendre des notes, donc il s'agit d'un acronyme, hein, Anthem à la base, A-N-T-H E-M. Qu'on a traduit premièrement par éviter. Éviter autant que cela est possible et raisonnable les images et les situations qui peuvent éveiller des désirs déplacés. Donc E pour entrer. Pardon, pour éviter, excusez-moi, éviter impératif. Hein. Éviter autant que cela est possible. Je peux vous envoyer tout ça, hein, pas de problème. Éviter en gros les images et les situations qui peuvent éveiller des désirs déplacés en vous. Ensuite, N pour non. Dites non à chaque pensée lascive dans les 5 secondes qui la suivent. Après ces 5 secondes, pour John Piper, vous êtes mort. Si vous entretenez une pensée pendant plus de 5 secondes, très difficile d'y résister. E, N, T pour tourner. Tournez vigoureusement votre esprit vers Christ en pensant à lui en tant que satisfaction supérieure. Le fait de dire non ne suffira pas. Vous devez passer de la défensive à l'offensive. En fait, c'est un acronyme progressif. E, éviter. N, non. T, tourner. R, retenez. Retenez fermement la promesse et le plaisir de Christ dans votre esprit jusqu'à ce qu'il expulse les autres images. En fait, l'idée est de remplacer les pensées qui sont entrées en vous par la satisfaction supérieure de Christ et de ses promesses. D'accord ? E, éviter. N, non. T, tourner. R, retenez. Et enfin, non pardon, avant, dernier point, E, éprouver. Sachez éprouver une satisfaction supérieure. Cultiver les capacités de prendre plaisir en Christ. Il les développe un peu plus, mais ça serait trop long sinon. Et enfin, E, entreprenez. Commencez à entreprendre une activité utile qui vous éloignera du désœuvrement et d'autres attitudes vulnérables. Levez-vous pour faire quelque chose. Passez le balai dans une chambre. Plantez un clou. Écrivez une lettre. Réparez un robinet. Et faites-le pour l'amour de Jésus. Quand vous sentez que ça vient, quand vous sentez que la pensée vient et va déboucher sur un acte, faites autre chose. Plantez un clou, attention à ne pas vous faire mal. Passez le balai, mais faites quelque chose. Voilà, alors si vous voulez en savoir plus, ce soir, Google, enfin, je ne sais pas si vous avez un accès à Internet, mais bon. Anthem, A-N-T-H-E-M, parce que c'est l'acronyme en anglais, John Piper, et vous tombez directement sur son site. Laurent, ça va, ça? Ouais. Oui, Pau. Ouais. J'ai compris aussi que la mort et la résurrection du Christ, avec cette mort et cette résurrection, la victoire est assurée. Il y a deux combats à mener.
Ouais, c'est ça.
Et je voudrais savoir, selon le texte de 1 Corinthiens 15, et selon peut-être tes recherches, Ouais. À quel niveau, juste pour préciser la question. Ouais. Maintenant, tout de suite. Comment dire, il y a une double réalité, je dirais, dans la vie du chrétien, parce que c'est une vie qui est placée sous le signe de la victoire. L'épître aux Colossiens dit que nous sommes ressuscités avec Christ et morts avec lui. Donc, ce que nous gagnons, c'est l'assurance de la résurrection corporelle, comme nous allons le voir demain. La vie éternelle, ça c'est sûr. Mais il y a aussi une dimension qui n'est pas encore arrivée. Donc, ce que Dieu nous promet, si nous menons les deux combats, l'évangile, la sainteté, c'est que nous allons souffrir. Tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. Donc dans ce monde, quelque part, nous n'avons rien à gagner, si j'ose dire. Sauf, bien sûr, peut-être la conversion de nos amis. Ça serait peut-être le plus beau cadeau que Dieu puisse nous faire. Mais je crois que Dieu nous promet de manière ultime de ressusciter et d'avoir la vie éternelle en son nom. Et c'est sur cette base, c'est à la lumière de cette réalité future que Dieu nous invite à vivre notre réalité présente. Autrement dit, il faut passer le présent au futur. Je ne sais pas ce que tu entendais par gagner exactement. C'est parce que gagner, c'est-à-dire en retour de ce que nous faisons pour Dieu. C'est une bonne question. Ouais. Ouais. Une relation personnelle avec Dieu, ouais. 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 Et d'une certaine manière, je crois que les épreuves que Dieu nous permet de traverser produisent mettre notre foi à l'épreuve et que la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Et ça, c'est une logique un petit peu que Paul développe en Romains 5, me semble-t-il, et que Pierre développe aussi en 1 Pierre. Dans ce qu'on gagne, je crois, par la grâce de Dieu, c'est une certaine maturité spirituelle dans la mesure où notre foi est un peu éprouvée. C'est ce que dit Pierre en 1 Pierre 1, des versets 3 à 12 notamment, où il parle d'un salut qui est à la fois passé, présent et futur. Donc ce qu'on pourrait peut-être gagner au travers de ces deux combats à mener, des combats de l'évangile et de la sainteté, c'est peut-être la fortification de notre foi. Dans la mesure où dit « Vous tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Et puis en Romains, chapitre 5, me semble-t-il, des versets 1 à 11, voilà ce qu'il dit. « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. » Les tribulations, c'est ce qui risque de vous arriver hein, si vous parlez de Jésus aux autres. Nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit, verset 3, la persévérance. Que la persévérance produit une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Paul, mais c'est peut-être les fruits que Dieu nous permettrait de porter au travers de ces combats menés, pour l'évangile et pour la sainteté. Est-ce que ça répond à ta question ? C'est une réponse de théologien, ça. D'autres questions ? Scott ! Excuse-moi pour mon accent américain. C'était pas pour toi. Je t'aime.
Verset 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ailes ouais. sous ses pieds. La cité de Blocher, qui en vrai langage comme dit, est progressive.
Oui, militante et progressive, selon lui.
Yeah.
Ouais. Concrètement, ouais, c'est vraiment un verset difficile, je le reconnais. Merci d'avoir posé cette question. Mais ce que je crois comprendre, et ce que croit comprendre Monsieur Blocher, hein, si j'en crois ce qu'il a écrit dans sa doctrine du Christ, c'est que au travers de la prédication de l'Évangile, ce que nous sommes en train de faire maintenant, ou au travers de ce que vous faites le dimanche matin dans votre église, lorsque votre pasteur annonce l'Évangile, prêche, il invite, en tout cas j'espère, les gens à se soumettre à l'autorité de Jésus. Et je crois que quand la personne, dans la grâce de Dieu, accepte de se soumettre à l'autorité de Jésus, c'est une victoire que Christ a remportée. C'est comme ça que je le comprends. Comment? Au moyen, au travers de la prédication de l'Évangile. Et il me semble que c'est comme ça que Jésus, que les ennemis de Dieu deviennent ses amis. En acceptant l'Évangile dans leur vie. C'est comme ça que je le comprends, et ça peut se faire aussi dans le cadre du témoignage. Si vous avez des amis chrétiens qui, au fil du temps, sont devenus chrétiens parce que vous leur avez témoigné de votre foi, ce sont des gens qui se sont soumis au règne, à l'autorité de Jésus, et c'est une victoire de Christ. Et il me semble que c'est progressivement que cela arrive. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes auxquelles nous allons parler se soumettent à Christ, pas du tout. Mais que c'est l'œuvre de Dieu dans le monde. Je ne sais pas, Scott, si je peux personnellement en dire plus. Est-ce que ça répond? Plus ou moins, merci de ta question, en tout cas. Ouais, en tout cas, c'est vraiment au Fils que le Père a confié cet exercice pour le salut des hommes. Ouais. Et c'est après que Jésus, en fait, c'est suite à cela que le Christ, en fait, va... de la même manière qu'un général romain va livrer le royaume au Père, quelque part. C'est comme ça que je comprends la suite du verset. Il va lui dire « Ma mission a été accomplie. La mission que tu m'as confiée m'a été accomplie. Je remets le royaume entre tes mains. Le voilà. Ils sont entre tes mains. » Mais ce jour-là, ça inclura aussi la soumission de tous ceux qui se sont rebellés, je crois. Et tous ceux qui se sont rebellés, malheureusement, je crois, se soumettront au Christ... contraint et forcé. Si vous avez des questions à ce sujet, on peut en reparler. Ouais. Pour moi, il n'y a aucune trace de repentance en enfer, pour dire les choses claires. Aucune trace, aucun signe de repentance en enfer. Aucun. J'en vois pas dans la Bible, en tout cas. Mais c'est un sujet de débat. Je suis conscient que c'est un sujet difficile aussi. Ouais, c'est comme ça que je comprends ces versets qui sont vraiment difficiles. Hein, mais... Autre question difficile? Deux dernières questions, d'accord. Oui. Ouais. Ouais, c'est vraiment une très très bonne question. Merci de l'avoir posée. J'espère que personne ne la poserait. Mais merci de l'avoir alors, j'aimerais dire deux choses. Essayer de répondre à ta question aussi précisément que possible, sachant que c'est très difficile. Hein. Réponds-moi ton prénom, excuse-moi. Nathan, merci. Moi, c'est Jonathan, donc j'aurais dû m'en rappeler. Alors, ce que ce verset ne dit pas, dans un premier temps, je pense que ce verset n'évoque en aucun cas et d'une aucune manière un changement au sein des relations éternelles entre les personnes de la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Ce verset n'évoque aucun changement, aucune altération au sein des relations personnelles entre la Trinité. Je pense que ce dont il est question dans ce verset, c'est plutôt d'une subordination volontaire du Fils au Père dans l'amour. Une subordination volontaire du Fils au Père dans l'amour. Ça, c'est un premier élément de réponse. Ce que ce verset ne dit pas, aucune altération, aucun changement au sein des relations entre les personnes de la Trinité. D'accord ? Plutôt une sorte de subordination. Tu comprends ce que je veux dire ? Une subordination du Fils au Père. Ils sont tous les deux égaux, dans le sens où tous les deux sont Dieu, ils sont pleinement Dieu. D'accord ? Donc il y a une subordination volontaire de Jésus, le Fils, au Père. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans, comment dire, dans le monde tel qu'il est régi aujourd'hui, l'ordre trinitaire se reflète un peu de manière modifiée. Le Père, auquel le gouvernement de l'histoire est approprié, il est Père, il est Dieu le Père, d'accord ? C'est lui qui gouverne le monde. Mais il a remis ce gouvernement au Fils. Vous êtes d'accord ? Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été confié dans les cieux et sur la terre. » Le Père a confié le pouvoir, l'exercice du pouvoir au Fils. Vous êtes d'accord, hein ? Le pouvoir est à Jésus, comme tu l'as très aimé, c'est Jésus qui va juger. Le pouvoir est au Fils aujourd'hui. Vous êtes d'accord ? Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tout pouvoir, toute autorité, littéralement, Matthieu 28, 19, m'a été remis sur la terre et dans les cieux. Et dans le cadre de l'économie, de la façon dont le monde est géré maintenant, comment dire, le Fils est en quelque sorte mis en avant, hein, puisque c'est lui le roi. Mais lors de l'accomplissement de toutes choses, à la fin des temps, lorsque Christ reviendra pour détruire la mort, je pense que cette situation n'aura plus lieu d'être. Et que le Fils se soumettra volontairement au Père. Et que l'ordre éternel des trois personnes sera ainsi rétabli. Je sais que c'est un peu compliqué, mais il me semble que c'est vraiment des versets hyper, 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 hyper difficile. Ok ? C'est ce que je suis en train de dire. Mais dans l'économie présente, dans la façon dont le monde est géré, comment dire, le Père a remis le pouvoir au Fils, l'autorité au Fils. Et à la fin des temps, c'est un peu comme si le Fils allait se soumettre, mais volontairement, au Père, en lui disant, voilà, ma mission est accomplie. Et l'ordre éternel des trois personnes de la Trinité peut être rétabli. Ça n'enlève strictement rien à la nature divine des trois personnes. Hein. Je ne peux pas aller plus loin, Nathan. Est-ce que ça répond un petit peu à la question ? Oui ? Je parle de subordination volontaire du Fils dans l'amour, pour résumer ma position. Subordination volontaire du Fils dans l'amour. Ouais. Une question ? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui, il est toujours... Mais moi, je parle plutôt de l'exercice que le Père a confié au Fils. Comment dire ? Dans sa médiation entre Dieu et les hommes, entre le Père, dans son œuvre rédemptrice. C'est le Fils qui est le roi dans la mesure où c'est grâce. Ouais, c'est par son intermédiaire. Donc, c'est dans le cadre de ses fonctions rédemptrices aussi. Que je parle. Bien sûr, de toute façon, Dieu étant Dieu de toute éternité, Père, Fils et Saint-Esprit règnent de toute éternité. Mais au sein dans le cadre des relations de la Trinité, il y a un certain ordre qui ne remet en aucun cas hein, la l'égalité de ces trois personnes, mais il y a un ordre, Père, Fils et Saint-Esprit, simplement. C'est difficile d'aller plus loin, tu sais. C'est la parole de Dieu. Ça fait réfléchir, mais c'est pas grave. Oui, pardon. Oui, oui. Oui. C'est vraiment... Oui, très bonne question. Non, je vais pas te haïr du tout, je vais t'aimer. Hein. Ouais, c'est vraiment difficile, mais... Ça revient un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure, lors de l'accomplissement de toutes choses, lorsque Christ reviendra pour juger les vivants et les morts, et lorsque je pense que tous les hommes seront soumis à Christ, en fait, d'une manière ou d'une autre, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle. Mais je crois que dans le cadre de la création, il y aura ce qu'on appelle une récapitulation, c'est-à-dire que toutes les créatures reconnaîtront que Jésus est Dieu, je pense. Je vous renvoie à Philippiens 2, hein, 8 et 9 notamment. Toute langue confessera qu'il est Dieu. D'accord. Et je pense que c'est lors de l'accomplissement de toutes choses que la situation que j'ai décrite au préalable n'aura plus lieu d'être. C'est-à-dire que, en fait, l'univers sera réconcilié. C'est comme ça que je le comprends. Afin que tout soit tout en tout, que l'univers sera réconcilié dans sa totalité. Qu'il n'y aura plus de rébellion quelque part contre Dieu, mais que tout le monde sera soumis de gré ou de force à son autorité. Est-ce que ça répond un peu à ta question ? Je le comprends comme ça, mais je suis conscient que c'est vraiment très difficile, quoi, hein. Accomplissement de toute chose, toute créature, l'ordre créationnel sera rétabli. Ok, dans un univers réconcilié. Merci de vos questions. Je m'y attendais. Merci beaucoup.